avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Presque 15 ans après les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center, qu'est-ce que le terrorisme a changé dans nos vies, dans nos mentalités, dans notre vivre ensemble et notre façon d'appréhender l'avenir? Sommes-nous désormais liés par un destin commun d'hommes et de femmes vulnérables face à la violence des attentats, à son imprévisibilité et tant de questions sans réponse sur le pourquoi de cette haine de la vie normale? Il y a 15 ans, au lendemain de l'effondrement des tours jumelles à New York, après la sidération, nous avons réagi en criant « Nous sommes tous américains ». Et aujourd'hui, où en sommes-nous? La génération 11 septembre est-elle différente de la génération Bataclan? Pouvons-nous partager d'Orlando à Abidjan une revendication de la mondialisation heureuse? Ou bien sommes-nous condamnés finalement à admettre qu'il s'agit d'un mirage à chaque attentat sur une plage de Tunisie, de Côte d'Ivoire ou de terrasses de café en France? Et puis il y a les lois sécuritaires partout qui ont envahi nos vies, les contrôles omniprésents, systématiques ou aléatoires, une vie de portique chimérique ou de tenace, de menace tenace. Et bien en tout cas, nous avons désiré ardemment la sécurité, nous avons perdu la tranquillité d'esprit. Et si ces questions résonnent en ce moment même dans vos vies quotidiennes, au milieu des embouteillages ou au beau milieu de la nuit, appelez-nous, écrivez-nous pour nous livrer vos impressions, nous lirons vos messages, nous vous donnerons la parole à l'antenne. Voici notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Parlez-nous de vos sentiments, vos impressions très personnelles. Nous allons en discuter avec nos invités. Jérôme Truc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et vous avez publié Sidération, une sociologie des attentats. Amy Green, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis et des relations internationales à Sciences Po Paris, au CERI. Nous serons également en ligne en deuxième partie d'émission avec le philosophe Frédéric Worms. Je vous lis quelques messages parvenus sur notre fil Facebook. Ousmane à Dakar nous dit « Je me souviens très très bien du 11 septembre 2001. Qui ne s'en souvient pas Qui ne se souvient pas de ce qu'il faisait à ce moment-là? Des images diffusées par toutes les télés, c'était très triste, vraiment. Abdoulaye à Conakry, en Guinée-Conakry. Le terrorisme a beaucoup changé ma vie. Je ne peux plus parcourir l'Afrique comme avant. J'ai peur de voyager hors de mon continent. Je me prive de beaucoup et surtout de ma liberté. Quand c'est l'Afrique qui est touchée, j'ai mal. Quand c'est l'Europe qui est touchée, j'ai mal. Quand c'est le monde qui est touché, j'ai mal. » Voilà, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On regarde un peu dans le rétroviseur. Depuis 15 ans, depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Jérôme Truc, hier on apprenait que des bonbonnes de gaz auraient pu exploser près de Notre-Dame. Aujourd'hui, on a le président François Hollande qui prononce un discours sur la démocratie face au terrorisme. Est-ce qu'on est entré finalement dans l'ère de la routine terroriste?
Si on pose la question à l'échelle de la France, je crois que ça paraît indéniable. Mais pas depuis le 11 septembre, peut-être plus depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier et l'hypercacher en janvier 2015. Ce qui paraît très clair, c'est que le 13 novembre, plus encore, a marqué un tournant. C'est-à-dire qu'après le 11 septembre, en Europe et en France aussi, donc, y compris, il y a une sorte de fascination pour le 11 septembre. Beaucoup de choses ont été comparées au 11 septembre. L'attentat de Madrid était un 11 septembre européen. La crise financière en 2007-2008 a été appelée... 11 septembre de la haute finance.
Oui, parce qu'à chaque fois, on disait « plus rien ne sera comme avant ».
Exactement. Donc, c'était devenu une sorte de lieu commun du discours journalistique qui culmine avec les attentats de Charlie Hebdo en janvier, où on dit là, c'est la une du monde, c'est le 11 septembre des Français. Bon. Et puis là-dessus arrive le 13 novembre, qui fait bien plus de morts. Et là, on ne dit plus que c'est un nouveau 11 septembre. Cette fois-ci, c'est le 13 novembre. Et il est clair que depuis, les Français, le 13 novembre fait office quelque part pour eux de 11 septembre. Maintenant, on redoute en permanence de nouveau 13 novembre, quelque part. On a eu Nice, on a eu Saint-Étienne-du-Rouvray. On vit effectivement actuellement en France dans cette peur latente, permanente d'un nouvel attentat.
Pour vous, Amy Green, vous vous souvenez évidemment de ce que vous faisiez le 11 septembre, vous-même. Tout le monde, tous les Américains s'en souviennent.
Bien sûr. Bien sûr, j'étais à Washington. Je travaillais pour une organisation qui luttait contre des conflits, qui travaillait sur les terrains pour résoudre les conflits ancrés depuis longue date dans les territoires lointaine, ainsi qu'aux États-Unis. Donc, je me souviens très bien d'avoir regardé les images en direct. On croyait d'abord que c'était juste un simple pilote dans un petit avion qui a perdu son chemin, qui a eu un accident terrible. Et puis, on s'est rendu compte après que c'était beaucoup plus important que ça. Et je me souviens à l'époque également, j'ai habité presque en face de la résidence du vice-président des États-Unis, en plein milieu d'un quartier résidentiel de la ville. Et d'avoir le souvenir des mesures de sécurité renforcées. Et puis, ce jour-là, il faisait extrêmement beau. Et je me souviens également de la paix. Le matin même, j'avais même remarqué la paix, le soleil, le calme. Et puis, finalement, c'est ce qu'on retient. C'est ça, le beau temps, la tragédie et puis le silence, finalement.
C'est ça, c'est cette sensation que tout peut basculer en quelques secondes. Aux États-Unis, 3 mois après la tuerie d'Orlando, 15 ans après le 11 septembre, est-ce que l'Amérique, la société américaine, dans les médias, regarde dans le rétroviseur à l'échelle de la société aujourd'hui ?
Ce qui est vrai, c'est que le 11 septembre, ça représente une rupture et donc rien n'a été comparable à l'avant. C'était un moment où les Américains se croyaient infaillibles presque, que la violence de cette sorte ne pouvait pas s'attirer justement sur le sol américain. Et puis nous avons compris, Américains, que ce n'était pas du tout le cas, que le monde que nous avons pensé conquérir n'était pas du tout un monde pour lequel on écrivait les règles. Et puis depuis, effectivement, il y a une question de terrorisme, mais de domestique. Vous avez évoqué la tuerie à Orlando. Il y avait beaucoup de tueries en masse, de fusillades depuis le 11 septembre qui ont été commises par des personnes, par des Américains finalement. Et donc, on s'habitue à une autre sorte de violence. C'est la violence d'armes, de fusillades qui sont aussi une forme de terrorisme, mais plus quotidienne.
Oui, mais ça, celle-là qui est présente de longue date sur le territoire américain.
Tout à fait.
Mais est-ce qu'on peut dire que le citoyen américain s'intéresse un peu au reste du monde depuis qu'il a pris conscience qu'il est une cible pour une partie du monde?
Bien sûr,
l'Amérique ne brillait pas par ses connaissances géographiques, on va dire.
C'est vrai qu'un Américain moyen n'avait pas forcément besoin d'aller très loin pour découvrir le monde. C'est un territoire qui est isolé par deux océans, etc. Bien sûr, l'Américain a regardé ailleurs dans le monde pour peut-être mieux comprendre ce qui aurait pu se passer et pourquoi. Il y avait un moment d'apprentissage juste après, en septembre, où les Américains cherchaient des réponses. Ils se posaient des questions. La réponse a été fournie par le président de l'époque qui avait une vision très manichéenne de la société mondiale, du monde, des autres, qui cherchait à culpabiliser tout de suite, à trouver l'origine, la source. Et donc, ce moment d'ouverture, finalement, pour les Américains, où ils cherchaient vraiment au fond de l'âme, a fermé assez rapidement quand on a commencé à se lancer dans deux guerres au Moyen-Orient. Et donc l'Américain, bien sûr, a regardé ailleurs, regarde toujours ailleurs pour comprendre ce qui se passe, même si la réponse qui a été donnée dans les médias tout de suite après le 11 septembre, c'était effectivement il fallait envahir tel pays, Afghanistan.
Nous sommes en guerre.
Tout à fait, nous sommes en guerre. Et puis c'est devenu un état de guerre perpétuel.
Aussi en France, récemment, nous sommes en guerre, c'est une attaque contre le monde libre.
Oui, tout à fait, c'est en ça aussi que le 13 novembre en France ressemble beaucoup à ce qu'ont connu les Américains avec le 11 septembre. C'est un tournant, ça marque un tournant. Il y a ce sentiment, on se découvre vulnérable. Il y a cette rhétorique de la guerre qui est très présente. Les déclarations de nos dirigeants politiques ressemblent beaucoup à celles de George W. Bush en 2001, avec cette dimension manichéenne aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours autocritique ou de décentrement sur d'où ça pourrait venir, quelles sont les causes plus lointaines. On est dans le discours, effectivement, de on nous attaque pour ce que nous représentons, pour notre mode de vie, pour nos valeurs. Donc le discours de George W. Bush, effectivement, en 2001, c'est pourquoi nous haïssent-ils ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes le phare de la liberté dans le monde, nous incarnons la liberté, et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui à chaque fois qu'une attaque terroriste a lieu en France, le discours consistant à dire qu'on nous attaque parce que nous incarnons, parce que nous sommes la République, nous incarnons la liberté, l'égalité, la fraternité. Le discours politique ne veut pas aller au-delà de ça, effectivement.
Les attentats en France se succèdent. Sur un plan collectif, vous dites, Jérôme Truc, il faut combien de temps pour que le calme revienne après un attentat dans les psychologies collectives?
Vous avez des recherches qui ont été faites, notamment aux États-Unis après le 11 septembre, qui montre que, donc aux États-Unis, il a fallu jusqu'à 9 mois pour que la société américaine, grosso modo, passe un peu à autre chose, c'est-à-dire soit moins dans une peur permanente d'une nouvelle attaque, moins dans cette obsession du terrorisme et de tout ce qui peut y être lié. Et donc, par comparaison avec ce qui a pu se passer dans d'autres sociétés, comme l'Espagne après les attentats du 11 mars 2004, la Grande-Bretagne 7 juillet 2005, là actuellement la France, bon, on se rend bien compte que c'est une période comme ça entre 6 et 9 mois durant laquelle, s'il ne se passe rien d'autre, progressivement, on revient incidemment à la normale. Mais si jamais dans cette période-là, ou juste après, Là, l'attentat du 13 novembre intervient à peine 10 mois après ceux de Charlie Hebdo et l'hyper cacher. Bon, bah, ça ravive les choses, ça aggrave et ça maintient du coup la société dans un état de tension, de préoccupation, d'inquiétude par rapport à cette question-là.
Vous nous appelez les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce que le terrorisme a changé dans nos vies, dans vos vies quotidiennes ?
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Douala, au Cameroun, un pays évidemment touché par le terrorisme de Boko Haram. Nous sommes en ligne avec Eugène. Bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Eugène. Vous êtes à Douala, vous avez le sentiment, même si vous vivez loin de la région qui est touchée par le terrorisme et par la menace Boko Haram, le nord du Cameroun, vous, en tant que citoyen à Douala, vous vous sentez touché par le terrorisme ?
On n'est jamais loin des terroristes. Hein. Entre l'extrême nord du Cameroun et Douala, un terroriste peut faire ce qu'il a besoin de faire. De toute façon, comme je le disais, hein, les populations vivent dans la peur, dans une psychose qui rend la vie absolument triste, malgré les efforts des autorités et des médias dans la sensibilisation et les messages d'encouragement. La situation est tellement effrayante, traumatisante même, hein. Il faut multiplier les actions de dialogue, d'éducation religieuse et même d'amour, hein. Et puis les messages de paix. Bon, il y a des coins au nord du Cameroun aujourd'hui où quand on sort, on n'est pas sûr de revenir à la maison.
Oui.
Et nous, on dit quand on sort que j'arrive, attendez-moi tout à l'heure. Mais à l'extrême nord aujourd'hui, quand on sort, la phrase qu'on laisse derrière la maison, c'est que j'espère que je vais revenir. Alors moi, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que les grands dirigeants de ce monde, hein, qu'ils essayent de multiplier des actions pour le dialogue, et je suppose hein, qu'on laisse un peu la réponse par des armes, parce que tous ces jeunes-là, de 18 ans à 20, 30 ans, parce que quand on regarde les médias, c'est ça la moyenne d'âge, ils ont certainement quelque chose à dire. Peut-être qu'ils n'interprètent pas, ils n'ont pas la possibilité de parler. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura la création, je ne sais pas moi, des milieux d'échanges et de foot, peut-être qu'ils pourront parler que de répondre par des armes. Parce qu'un jeune de 15, 20 ans qui tue 8, 15, 30 personnes et qu'on espère qu'on résout le problème en sortant toute une tirelire de policiers et de gendarmes pour aller le chercher dans sa cachette. Et espérer que c'est ça la solution au problème, moi je pense que non.
Bon, vous posez des questions que l'on se pose, et tout à fait comme en Europe, hein, finalement. Est-ce que vous pensez, Eugène, qu'on peut partager cette... Vous nous parliez de ce stress, hein, qu'on ne peut plus dire dans certaines régions au Cameroun, j'arrive tout à l'heure. Est-ce qu'on peut partager tous, au nord comme au sud, ce sentiment de vulnérabilité, ou bien finalement c'est totalement illusoire? On a beaucoup vu après les attentats en France... Hein, Jérôme Truc, que des citoyens qui étaient dans les pays pauvres en développement disaient « mais nous aussi, on est victimes des attentats tout le temps, on n'en parle pas de la même manière, etc. » Comme s'il y avait des victimes et des victimes de seconde zone. Vous, quel est votre point de vue, Eugène? Et après, on donnera la parole à Jérôme Truc.
Ben, écoutez, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est qu'on vit en France, c'est comme si on le vivait à Douala, juste à côté, à 5 mètres. Hein. Et puis, la psychose est la même. Un Français qui ne peut plus sortir à 20 heures pour aller prendre un verre de jus, c'est exactement la même chose qu'un citoyen de l'extrême nord qui ne peut pas sortir à 18 heures pour aller s'acheter, je ne sais pas moi, un morceau de viande ou de poisson dans la rue, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on mange ici chez nous. Donc, la psychose est la même. Je vous dis, au Cameroun, à l'extrême nord, et c'est vrai, les médias vont dire des choses positives pour que les gens ne restent pas dans la peur. Mais j'ai dit, il est absolument difficile aujourd'hui que quelqu'un parte de sa maison à 18h, 19h et que vous l'espériez le voir rentrer. Cette psychose, elle est là, elle est présente, elle est active, tout le monde le sait. Donc c'est effrayant. Au nord comme au sud, c'est pareil. Mais écoutez, c'est l'extrême nord, d'accord, mais quelqu'un qui est du sud a quand même un cousin, un frère,
oui,
un oncle qui est à l'extrême nord et qui lui dit exactement ce qui se passe au jour le jour.
Et tout ça est partagé sur les...
Un fonctionnaire du Cameroun aujourd'hui, quand on l'enlève de l'extrême nord pour le sud, il fait un anniversaire parce qu'il s'est dit au moins au sud, je vais quand même respirer un peu par rapport à l'extrême nord. L'inverse est absolument difficile. Ne demandez pas à un fonctionnaire du sud que vous l'affectiez au nord, ce qui était absolument normal il y a quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, c'est tout un problème pour que quelqu'un accepte d'aller vivre à l'extrême nord. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas la même peur au sud, mais c'est absolument exagéré au nord.
Bon, on voit bien, effectivement, vous avez bien décrit hein, les conséquences pour la vie quotidienne des citoyens au Cameroun. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Eugène, Jérôme Truc.
Oui, oui, c'est très, très juste ce que disait à l'instant Eugène, parce que effectivement, on a, quand un attentat a lieu, une tendance, chacun d'entre nous, mais qui est en plus accentuée par les réactions publiques, des hommes politiques, des médias, à généraliser, en fait. Et c'est vrai que donc, les attentats visent à provoquer un état de terreur, de peur dans une société, mais cette peur, cette terreur, elle est vécue très différemment par les uns et les autres en fonction de leur position et de leur situation sociale, au sein même de la société frappée et au-delà de cette société-là. Vous vous rappeliez tout à l'heure qu'au moment du 11 septembre, nous étions tous américains, c'était le mot d'ordre à l'époque dans l'espace public de la réaction. Il n'en reste pas moins que l'enquête sociologique, quand on va voir les réactions, les messages adressés aux victimes, les courriers adressés à des journaux, les Français étaient tous plus ou moins américains. Certains étaient plus intensément que d'autres, certains ne l'étaient pas du tout. Il y a eu des contestations à l'époque de tout ça. Et Eugène a effectivement raison de le rappeler. Aujourd'hui, ces contestations de ce que j'appelle dans mon livre du coup, des injonctions au concernement, quand on dit aux Français, voilà, en tant qu'Occidentaux, vous devez tous vous sentir concernés, nous sommes tous américains. Et certains qui disent oui, je le suis vraiment, d'autres un peu moins, etc. Ces injonctions au concernement, on voit beaucoup plus clairement leurs contestations aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, dès que vous avez un attentat en Occident, vous avez des gens qui disent « Oui, effectivement, mais pendant ce temps-là, ils s'en passent ailleurs en Occident et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ?» Je vous donne un exemple très précis, l'attentat de Boston, par exemple, le marathon de Boston, qui fait 3 morts le même jour où vous avez un attentat en Irak qui fait 50 morts. Bon. Et dans la presse, les médias français, on a beaucoup plus parlé de celui de Boston que celui de l'Irak. Et ça n'empêche pas que vous avez effectivement des gens qui, sur les réseaux sociaux, du coup, sur Twitter, sur Facebook, etc., pour des raisons qui leur sont propres, prennent une position d'entrepreneur de solidarité, hein, consistant à dire, mais il faut aussi hein, se sentir solidaire pour ces victimes-là, parce que toutes les vies humaines valent la même chose.
Numériquement, qui sont les plus nombreuses. Hein, oui. Les victimes dans les pays musulmans, à l'heure actuelle, sont les plus nombreuses face au terrorisme.
Exactement.
Et effectivement, il y a une forme d'occidentalisation de la victimisation du terrorisme, indéniablement, même encore aujourd'hui, alors que les chiffres démontrent le contraire, Amy Green.
Ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, et puis je me place dans la position de l'Américain, en tout cas. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on a vu dans la génération post-11 septembre, c'est un rapport aux autres qui est tout à fait transformé, notamment par les réseaux sociaux, dans le sens où cette jeune génération, et c'est là où on trouve un petit peu d'espoir quand même, a une vision moins manichéenne. Ils sont liés instantanément à des gens très très loin, loin d'eux, et donc ils se rendent compte de ce que c'est la conséquence de la décision politique, de l'action politique américaine, par exemple, sur des citoyens, sur des peuples. Ils voient également ce que c'est le terrorisme, tel que ça impacte les autres, alors que ce n'est peut-être pas le résultat d'une prise de position du gouvernement américain. Mais en tout cas, ils voient ce que ça donne et ils sont beaucoup plus liés à cela. Et l'appétence pour la guerre, pour les interventions militaires est beaucoup plus réduite par rapport à une génération, même juste la génération précédente, parce que ces jeunes-là, ils voient ce que ça donne, ils voient l'importance du terrorisme sur la vie quotidienne des autres populations, des autres sociétés. Et donc, le rapport par rapport à ça fait que, alors que dans les médias, on peut peut-être penser qu'il y a une surreprésentation des attentats dans l'Occident comme étant plus important, mais finalement, pour les peuples, pour les gens, c'est peut-être pas... aussi important
bien sûr,
que ça.
Et les réseaux sociaux sont passés par là aussi. Hein, tout communique avec tout. Jérôme Truc et Amy Green, vous restez avec nous, les voisins, les voisines. Vous pouvez bien sûr nous donner votre sentiment. Le terrorisme a-t-il changé nos vies quotidiennes? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
Autour de la question. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, presque 15 ans après les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center. Qu'est-ce que le terrorisme a changé dans nos vies, à nous tous, hein, de New York à Paris, en passant par Abidjan, Madrid, Londres, on ne peut pas tous les citer, mais qu'est-ce que ça a changé dans nos mentalités, dans notre vivre ensemble, dans notre façon d'appréhender aussi, de se projeter vers l'avenir? Sommes-nous désormais liés par un destin commun de vulnérabilité face à la violence des attentats, face à l'imprévisibilité aussi, et puis face à l'interrogation, au fait de ne pas comprendre les raisons de cette violence. Nous étions en ligne avec un citoyen camerounais il y a quelques minutes. On se pose la question sur cette génération 11 septembre, finalement, à l'échelle de la planète, est-elle différente de la génération Bataclan? Nous en discutons avec vous, Amy Green. Vous êtes américaine, enseignante, chercheuse en relations internationales au CERI à Sciences Po Paris, spécialiste aussi de la politique américaine. Jérôme Truc, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, chargé de recherche, pardon, vous êtes trop jeune pour cela, chargé de recherche au CNRS et auteur de Sidération, une sociologie des attentats. Je vous livre un message d'auditeur à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, Mokhtar. Voici ce qu'il écrit. Le terrorisme est devenu l'hydre de l'erne moderne, une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la Terre et sur ses 7 milliards de voisins. Tuer l'hydre de l'erne, c'est le deuxième des 12 travaux d'Hercule, hein, je vous le rappelle. Alors, sans vouloir être trop sceptique, rappelle Mokhtar, voire trop pessimiste, éradiquer le terrorisme serait une entreprise trop fastidieuse. Le seul espoir, c'est d'apprendre à vivre. Il ne faut pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie, comme disait le philosophe latin Sénèque. Voilà, on a des beaux messages d'auditeurs. On a de la chance d'avoir des auditeurs de cette qualité. Merci Mokhtar pour ce message. Je vais passer la parole maintenant au téléphone à Frédéric Worms. Bonjour.
Bonjour.
Ça tombe bien, vous êtes philosophe, directeur adjoint de l'École normale supérieure. Vous posez cette question, que peut la philosophie face à la violence du terrorisme, dans un livre publié avec le philosophe Marc Crépon, la philosophie face à la violence. Que vous inspire le message de Mokhtar à Saint-Louis du Sénégal?
Oui, d'abord, merci de votre invitation et de cette réflexion sur ces enjeux. Je vous entendais parler du 11 septembre, du 13 novembre et du terrorisme. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on ne peut plus parler d'un seul événement. On doit parler maintenant d'une époque. La répétition des événements fait qu'on a changé d'époque et qu'il faut bien la penser. Donc, il faut bien passer par la philosophie. Mais pour répondre sur le terrorisme, ce qui me frappe aussi, c'est que cette époque est définie non pas seulement par des conflits, il y a toujours eu des guerres, des adversaires, des polémiques et des conflits, mais par des modalités du conflit. C'est des actes qui viennent transgresser, qui ne sont pas seulement des expressions d'un désaccord ou d'un conflit, mais qui viennent transgresser des règles. Et donc la réponse pour moi, c'est de prendre conscience de ça, de répondre aussi en rappelant les règles, le cadre. C'est des actes qui menacent non seulement des vies et des relations comme tout conflit, mais aussi le cadre et les règles, les principes qui rendent la vie possible. Donc c'est sur ces principes qu'il faut, je pense, réfléchir.
La philosophie face à la violence, au départ, c'était un cours gratuit sur Internet que vous aviez mis au point à l'ENS sous forme de MOOC. C'est devenu un livre. La philosophie connaît un succès particulier, vous diriez, depuis les attentats qui posent la question de l'existence?
Ben absolument, oui, notre cours en ligne, qui d'ailleurs avait l'espoir de toucher un public très large, y compris dans tous les pays francophones, hein, c'est un cours en français, et on espère vraiment que c'était le cas. Il portait sur ces questions à partir de la génération, on pourrait dire, existentialiste, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et le propre de cette génération, qui est encore en partie notre problème, c'est d'affronter des problèmes majeurs, existentiels, je dirais en tant qu'humain, sans référence transcendante, en tout cas présupposée ou commune, en dehors du cadre d'une religion en tout cas partagée par tous, de valeurs accédées par tous. Et quand on est des humains qui affrontent des problèmes avec des positions différentes, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la philosophie, c'est le recours, parce que c'est l'usage de la raison humaine pour affronter les problèmes humains et pour en parler entre les êtres humains. Et donc les philosophes existentialistes, qui n'étaient pas tous d'accord entre eux, les uns justifiaient la terreur, les autres la critiquaient, mais ils étaient tous d'accord sur le fait que l'homme est face à son histoire et doit l'affronter par le partage et par finalement la définition d'un cadre commun.
Alors, la philosophie n'est pas à la portée de tous, mais Jérôme Truc, vous confirmez le fait que dans vos études, les citoyens sont désormais vraiment dans une recherche de sens.
Mais en fait, ça, une fois encore, ça dépend de leur position sociale, de leur génération aussi. On a parlé là à plusieurs reprises de générations. J'entendais encore Frédéric Worms parler de la génération existentialiste, qui ressort par exemple très nettement dans les réactions au septembre des Français. C'est que les gens des générations qui ont connu la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie ont réagi au 11 septembre en le percevant comme une nouvelle guerre, justement, et donc avec les catégories de pensée de géopolitique, de conflit entre nations et appelant des représailles militaires. Tandis que les plus jeunes, ceux qui correspondent à ceux qu'on appelle la génération 11 septembre, justement, ont majoritairement répondu à ces événements sur un mode cosmopolitique ou pacifiste comme une mise en péril d'une humanité qui allait dans les années 90 vers la paix et ce à quoi il fallait du coup répondre non pas par la violence mais par le dialogue ou ce genre de choses. Donc en fonction des positions des uns et des autres, les réponses sont différentes. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur une chose qui est que la génération Bataclan dont on parle tant...
Donc les jeunes, hein, aujourd'hui.
Bien sûr, mais en fait...
Les jeunes qui sont le produit d'une mondialisation heureuse, quand même, globalement.
En fait, ce qu'on appelle une génération, généralement, c'est soit une cohorte de naissance, les gens nés à une même période, soit les gens qui vivent un événement marquant quand se fige leur représentation du monde, donc quand ils passent à l'âge adulte, à 20 ans. Bon. Et la moyenne d'âge des victimes des attentats du 13 novembre, c'est 35-37 ans. Voilà. Les gens qui ont 35-37 ans en 2017 sont ceux qui ont eu 20 ans en 2001. La génération 11 septembre qui a eu 20 ans au moment du 11 septembre, c'est directement la génération qui est actuellement visée par les terroristes de Daesh à Paris. Et ça, je trouve que c'est assez fort, en fait. On les oppose comme deux générations différentes. En un sens, on peut considérer que c'est la même. Oui, ils vivent dans cette époque-là que décrivait à l'instant Frédéric Worms.
C'est ça. C'est une génération qui a donc une mémoire collective importante. Frédéric Worms ?
Oui, absolument. Mais je suis tout à fait d'accord et tout à fait frappé par ce que vient de dire Jérôme Truc. Ce qu'il faut souligner par ailleurs, c'est que effectivement, ce qui peut définir une génération, c'est un événement survenant à un certain âge d'une époque individuelle de la vie et d'une époque commune de l'histoire. Après ce qui a précédé, des événements qui apparaissent comme une coupure, c'est-à-dire le 11 septembre, c'était aussi au fond la fin d'une autre génération qui avait cru à la fin de l'histoire, à l'avènement de la démocratie universelle, comme on dit maintenant. Et donc, c'était aussi un avant et un après. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'événement n'est jamais seulement un fait brut. Et c'est le sens qu'on donne à l'événement. Et ce que j'entends dans ce que dit Jérôme Truc, qui est très frappant, c'est que le sens que cette génération, et qu'il étudie historiquement et sociologiquement, et ces reculs-là sont très importants, le sens que cette génération a donné elle-même à elle-même, à son événement, elle en a aussi été un peu dépossédée par les discours politiques. Il n'y a pas eu seulement une autre génération avec d'autres repères. Il y a eu le sens donné par certains politiques d'en faire tout de suite une guerre contre le terrorisme. Et aussi, évidemment, le discours des terroristes eux-mêmes, qui sont non seulement des acteurs, mais motivés par des discours. Et ce qu'il faudrait, c'est effectivement faire entendre le sens qu'une génération donne à elle-même, se donne à son histoire, et que nous pouvons encore lui donner. Et nous devons tous travailler à cette expression du sens, et à ne pas l'envisager seulement rétrospectivement, par exemple... Voilà, les gens qui avaient 20 ans en 2001 pensaient ça, et puis malheureusement, ça a tourné autrement. Il faudrait maintenant prendre en main notre histoire et la transmettre aussi aux générations qui viennent.
Oui, et puis produire peut-être une pensée commune générationnelle, qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, hein, parallèlement. Mais,
générationnelle ou sociale ou nationale, si vous voulez, parce que c'est très juste ce que dit effectivement Frédéric Worms. Un événement continue à produire ses effets tant qu'il nous préoccupe et tant qu'on réfléchit à son sens. Et les uns et les autres le donnent un sens différent. On a un sens donné à cet événement à un niveau politique, à un niveau médiatique, mais dans d'autres groupes sociaux, chacun va en donner un sens différent. Et c'est aussi parce que chez les jeunes de 20 ans, certains, dans certains milieux sociaux, lui ont donné un sens différent que celui qui était le sens dominant qu'on lui donnait, que parmi ces jeunes, on en retrouve certains qui ensuite sont prêts à aller se faire sauter pour Daesh en Syrie ou en France.
Alors, il faut aussi poser la question des libertés, des lois sécurité. Et là, je me tourne vers vous, Amy Green, parce que vous avez été finalement le premier pays, en tout cas en Occident, mais à expérimenter la restriction des libertés pour cause de menaces terroristes, bien avant nous.
C'était une grande conséquence politique du 11 septembre, effectivement, c'était l'élargissement de l'état de sécurité aux États-Unis, en tout cas l'étendue des réseaux d'intelligence, des écoutes, etc. Effectivement, il y avait beaucoup de soutien dans l'opinion publique juste après le 11 septembre pour la loi Patriot. Hein. C'est la loi qui permettait la restriction des libertés civiles au nom de la sécurité nationale. Ça a été assez bien soutenu dans l'opinion publique. Cette loi a été raffirmée par Barack Obama tout récemment. Alors, on a eu depuis les conséquences et la colère, justement, du peuple américain par rapport aux découvertes relevées par Edward Snowden sur les écoutes de la NSA, sur les citoyens qui n'avaient rien à faire avec le terrorisme, qui étaient des gens qui n'ont rompu avec aucune loi. Mais en effet, le peuple américain, à l'époque, a décidé que c'était nécessaire, c'était souhaitable, c'était pas de toute façon grave de céder une part de sa liberté.
Et c'est, au très nom clairement, de la, c'est très clairement entré dans la vie quotidienne des Américains. C'est très clairement admis, en fait. Hein. On peut se retrouver quand même assez facilement en slip dans un aéroport américain depuis plusieurs années, ça.
Oui, depuis le 11 septembre, finalement. C'est devenu une partie normale de la vie quotidienne aux États-Unis, tout comme toute autre forme de contrôle. Et même l'existence même du département de Homeland Security, des mesures sécuritaires, c'est devenu peut-être de plus en plus remis en question, mais en tout cas, le peuple en général, les gens acceptent ça comme sacrifice à faire pour avoir un peu d'ordre dans la société.
C'est une forme de prix à payer.
Mais
en France aussi, où en deux ans, on a eu quatre lois à visée antiterroriste.
Mais ce qui est très clair aussi, c'est que la réponse aux attentats ne peut pas se limiter uniquement à ça. C'est la réponse la plus immédiate, la plus à court terme, aux États-Unis comme en France. Et simplement, les attentats continuent à produire leurs effets délétères au sein d'une société si on n'apporte pas des réponses qui sont plus de fond sur du niveau social ou sociétal, si vous voulez, éducatif, en termes d'identité collective et culturelle aussi. On peut considérer qu'aux États-Unis, en large partie, le succès de Barack Obama, ça s'explique aussi par le fait que dans sa première campagne électorale, il apporte un discours de type au niveau de l'identité collective. Il essaye de faire dialoguer entre eux des groupes sociaux américains. Il essaye de sortir de cette rhétorique qui était avant tout guerrière et sécuritaire, qui était celle de George W. Bush.
Oui, l'élection d'Obama, c'était pas la fin de l'histoire, mais c'était plutôt le début. Il y a effectivement un clivage générationnel très fort aux États-Unis. Il y a une partie de l'Amérique qui est très sensible à l'argument de la fracture, justement, entre communautés, entre sociétés. Ouais. Finalement, c'est l'Amérique qui est incarnée aujourd'hui par Trump. Il y a aussi l'Amérique multiculturelle, plus dans le dialogue, et c'est plutôt les jeunes, les groupes minoritaires, etc., qui sont incarnés donc, par Hillary Clinton. Finalement, vous avez également là-dedans ce clivage donc générationnel. Peut-être c'est la génération donc post 11 septembre, mais qui voit le terrorisme, par exemple, comme n'étant pas une menace existentielle pour les États-Unis, mais c'est plutôt les enjeux du changement climatique et des choses finalement qui impactent tout le monde et le monde entier, justement, qui sont les plus menaçants pour eux. Et donc, aujourd'hui, le rapport au terrorisme, le rapport entre ces jeunes Américains et puis la perception du monde des autres peuples, ce n'est pas finalement une vision de fracture, mais plutôt de dialogue, justement.
Nous sommes toujours en ligne avec vous, Frédéric Worms, sur cette question des libertés et des lois sécurité sur le plan philosophique. C'est là aussi un débat sans fin.
Mais c'est sans fin et en même temps pas du tout sans fin. Je pense que le vrai piège, c'est d'opposer ceux qui sont pour ou contre l'état de droit en général. C'est-à-dire certains diraient, voilà, il faut répondre par la force à la force et protéger les vies et renoncer aux droits. Ou d'autres diraient, il faut le droit par-dessus tout, la justice et puis que le monde périsse, comme dit un proverbe célèbre, plutôt la fin du monde que sacrifier la justice. Je pense que ce débat est quand même très, très, très grave parce qu'il nous amènerait à opposer deux camps, ceux qui sont du côté de la justice et ceux qui sont du côté de la vie, de la survie avant tout. Alors qu'en réalité, le point important, c'est au sein de l'état de droit de marquer des seuils. C'est-à-dire qu'il faut répondre par des mesures, parfois exceptionnelles, quoique provisoires, mais il faut marquer des seuils. Tout pour autant ne peut pas devenir possible et il faut que ces seuils fassent l'objet d'un débat dans un cadre. Et ça, c'est vrai que le droit, ce n'est pas seulement des règles, c'est un cadre de discussion où on peut précisément établir des limites. Qu'est-ce qu'on a en fonction de la menace, le droit de faire et pour combien de temps? Et si on ne marque pas ça, on va retomber dans un piège et un débat extrêmement dangereux entre d'un côté des supposés protecteurs de nos vies, comme si nos vies pouvaient être protégées sans cadre, c'est encore plus dangereux, et de l'autre côté des supposés défenseurs du droit, comme si le droit n'était pas là pour protéger nos vies. Donc il faut vraiment retrouver le sens des limites, c'est-à-dire des seuils qui sont difficiles à déterminer. C'est pour ça que ça paraît sans fin. Mais pourquoi est-ce qu'on peut telle personne l'écouter, telle personne pas? Pourquoi est-ce qu'on peut interdire telle liberté et telle autre non? Et sortir du tout ou rien, et avoir un débat sur ces seuils est toujours à la fois difficile, nécessaire et en fait, en un sens, vital.
Et pas toujours lisible aussi pour les citoyens. Merci. Merci beaucoup Frédéric Worms d'avoir été en ligne avec nous. Vous publiez avec votre confrère, compère, philosophe Marc Crépon, La philosophie face à la violence, et c'est paru chez Équateur Parallèle. Merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Dans quelques instants, on prendra un auditeur qui nous appelle, et puis bien sûr, on va reposer aussi cette question. On a beaucoup parlé du stress, de l'angoisse, de la peur, des attentats qui s'est vraiment immiscé dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. À cela s'ajoute aussi maintenant la peur des fractures. On en discute dans quelques instants. Short amount of time before the birds fly by. The lighting in your room was always too low. We said our goodbyes before we said hello. A small space, you changed me. In a crowded place, you isolated me.
Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess.
Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. On s'interroge tout simplement et si difficilement sur ce que le terrorisme en 15 ans, depuis le 11 septembre 2001, a changé dans nos vies quotidiennes, dans nos mentalités, dans nos façons de percevoir aussi le monde qui nous entoure. Tiens, je vous lis le message d'Akini qui est à Bassila, dans le centre du Bénin. Il nous dit: le terrorisme n'a fait que gagner du terrain, continue à semer la discorde dans le monde. Au lieu de perdre du temps à voter des lois contre les musulmans et l'islam, les grandes puissances devraient combattre le terrorisme comme elles se sont battues contre Hitler. On dirait presque que ce fléau arrange certains États. Oui, mais c'est une guerre qui est plus compliquée peut-être que la Deuxième Guerre mondiale, encore que je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette allusion aussi au grand conflit de l'histoire, Jérôme Truc.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi bien voir que ce qu'on appelle terrorisme, on n'arrive pas à se mettre d'accord en droit international sur ce que c'est. Donc c'est avant tout un label. Les résistants pour la Seconde Guerre mondiale étaient déjà appelés les terroristes. Donc si on se bat contre le terrorisme en général, le combat est effectivement sans fin, c'est l'hydre de laine. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui ressortira et qu'on appellera terroriste. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement beaucoup plus compliqué que pendant la Seconde Guerre mondiale où on sait qu'on s'attaque Hitler, on s'attaque à Hitler et aux nazis. Donc voilà, il faut bien dissocier actuellement, si vous voulez, ce qui relève du niveau géopolitique. Le 11 septembre, les réponses qui ont été apportées: guerre en Afghanistan, guerre en Irak, déstabilisation du Moyen-Orient, qui ont eu comme effet aussi du coup l'émergence de Daesh. Il n'y aurait peut-être pas eu Daesh, il n'y avait pas eu la guerre en Irak, etc. Bon, dont nous payons aujourd'hui les conséquences, nous vivons là-dedans.
Et puis réponses intérieures, c'est ça.
Voilà, et de l'autre, ce qui relève de la façon dont l'événement a été vécu à l'échelle des citoyens, aux États-Unis, en France, en Occident, ailleurs dans le monde.
Nous accueillons un auditeur qui s'appelle Arnaud, qui nous appelle. Vous nous appelez de Bretagne, Arnaud, c'est bien cela?
Tout à fait, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Merci. Je m'intéresse au débat sur le 11 septembre, essayer de faire le tri entre des théories farfelues qui peuvent circuler sur certains sites internet et puis la thèse dite officielle des explications qui nous ont été données sur le 11 septembre. Et pour faire le tri entre tout ça, il faut justement vérifier l'information. Et Edward Snowden disait dans une interview au New York Times que beaucoup de grands médias américains avaient renoncé à leur rôle de contrôle du pouvoir. Donc je voulais demander à Jérôme Truc si il pensait que le traitement médiatique de ce sujet était convenable et si on est suffisamment à même de vérifier les informations qui ont été données.
On va poser aussi la question sur toi, Amy Green, qui est américaine et spécialiste des États-Unis des relations internationales, sur le contrôle, la vérification de l'information, le contrôle médiatique.
C'était un grand débat autour de l'invasion américaine en Irak en 2003. Puisqu'effectivement, il y avait des manifestations, il y avait un segment de quelques dirigeants politiques, mais pas beaucoup, mais surtout de la population américaine qui s'opposait tout à fait à cette invasion, qui a été sous prétexte qu'il y avait un lien direct entre le 11 septembre et Saddam Hussein, qui a été désavoué après, et les armes de destruction massive. Mmh. Et puis, effectivement, il y avait notamment le New York Times qui a été critiqué parce que c'était un journal qui n'a pas posé beaucoup de questions, de critiques de cette politique de l'administration Bush, qui avait des journalistes, notamment une journaliste qui a reçu des informations qui ont été avouées comme fausses après. Donc, en effet, la question se pose sur où a été la vérification au moment de l'invasion en Irak. Presque toute la classe politique aujourd'hui en pouvoir, y compris Hillary Clinton qui se présente à la présidence, a voté pour cette intervention. Et justement, où a été le contrepoids de la presse à l'époque-là? La même question peut se poser toujours aujourd'hui, puisque la presse est toujours critiquée par rapport à ce silence qui peut se produire au moment de vérifier les faits et d'exercer son pouvoir de contrôle de vie.
Alors, sur la vérification, bien sûr, hein, mais pas seulement. Il y a aussi tout le traitement médiatique des attentats, hein, Jérôme Truc, qui est largement mis en cause depuis 15 ans, quels que soient d'ailleurs les pays, quelles que soient les cultures. Les attentats ne se sont pas traités de la même façon pour les attentats de Madrid, de Londres, en France ou aux États-Unis.
Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est quand on est sociologue, on est assez prosaïque, et il y a une chose dont on ne parle pas là, mais qui est sous-jacente, qui est le fait que l'activité journalistique est une activité professionnelle comme une autre, sur laquelle pèsent des contraintes de division du travail, des contraintes économiques aussi. On essaye de faire le mieux possible son travail à moindre coût. Bon, et typiquement, pour le cas des États-Unis, on parlait tout à l'heure du fait que quand survient le 11 septembre, il y a tout d'un coup une interrogation sur pourquoi est-ce que cela nous arrive, donc une ouverture sur le monde, etc. Des recherches ont bien montré que le nombre d'articles consacrés dans la presse américaine, à la télévision américaine aussi, le nombre de reportages consacrés aux événements ailleurs dans le monde, les événements géopolitiques, n'avaient fait que diminuer au cours des années 90, parce qu'ils s'étaient rendu compte que ça faisait pas d'audimat, que ça intéressait pas le public. Donc on fait revenir les envoyés spéciaux à moindre coût. Et ce qui fait qu'au moment du 11 septembre 2001, les journalistes américains se sont trouvés très désemparés pour traiter de qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde qui pourrait expliquer ce qui nous arrive là. Bon. Et ces contraintes, elles s'exercent encore aujourd'hui directement à chaque fois qu'un attentat a lieu sur les journalistes qui, en plus, eux-mêmes réagissent à ces événements en tant que citoyens. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en première ligne de devoir traiter à chaud un événement qui les choque quasiment autant pour des raisons qui sont personnelles.
Notamment pour l'attentat contre Charlie Hebdo, où effectivement, là, c'est aussi une profession qui a été sinistrée et où, du coup, la presse avait une neutralité difficile. Est-ce qu'il faut montrer les visages, dire les noms des terroristes? Ça a été un débat très, très récent en France, Jérôme Truc.
Et alors, auxquels
les citoyens ont donné leur avis d'ailleurs. Hein, on les a beaucoup questionnés.
Typiquement, dans ces situations-là où en plus on rencontre en direct des événements, ce qu'on ne peut pas ne pas faire aujourd'hui parce qu'on a en plus les chaînes d'information en continu, etc., il y a toujours des dérapages qui peuvent avoir lieu. Au moment de l'attentat de Nice, donc on interroge quelqu'un à côté du cadavre de sa femme. Mais au moment du 11 septembre, on fait des gros plans sur les gens en train de se défenestrer, des fenêtres en direct. Bon, donc c'est des images qu'on exclut ensuite, mais il peut y avoir des dérapages en direct. Et puis, faut-il ensuite montrer les images des terroristes ou pas, leurs portraits ou pas? Et si vous voulez, dans la mesure où chaque événement est vécu et reçu différemment par le public, chacun y attribue un sens différent, si vous montrez... Typiquement, ceux qui considèrent qu'un attentat est un complot, quel qu'il soit, vont vous dire que les terroristes qui ont perpétré l'attentat étaient des agents de l'État, bien connus, des services de police, etc. Si vous ne montrez pas leur visage, vous donnez un argument pour ces personnes-là pour dire « Voyez, on ne veut pas vous montrer qui ils sont, parce qu'en fait, si on vous montrait, en fait, on se rendrait bien compte que en fait, ces gens-là sont connus, qu'on peut les retrouver sur d'autres photos, d'affaires, de faits divers, etc. Bon. » Et en même temps, si on montre la photo, ça peut encore alimenter un argument disant « Voyez, en fait, sur cette photo, il ne ressemble pas vraiment à celui qu'on dit qu'il est, j'ai trouvé une autre photo où c'est pas même, etc. » Donc fondamentalement, la réponse à apporter à ça, c'est faire son travail le mieux possible et donner tous les éléments qu'on peut donner d'accès à la réalité et à la vérité dès lors qu'elles ont été vérifiées. Et tous les journalistes le disent, dans ces contextes-là, l'important, c'est de vérifier l'info.
Alors, la violence des images aussi a un énorme impact hein, sur, l'angoisse dans les mentalités collectives, sur le stress, etc. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a à la fois la peur des attentats, puis surtout ce côté imprévisible, et aussi la peur des fractures qui gagnent peu à peu. Est-ce que ça, c'est spécifique, vous diriez, à la France ou pas, Jérôme Truc?
Non, chaque attentat vise à produire justement ces fractures dans une société. Parce que justement, c'est une sorte de défi qui est posé à la société dans sa réaction. C'est les gens se sentiront-ils solidaires ou pas des victimes? Et on se rend bien compte que le « nous » à chaque fois est mis à mal. Certains se sentent très fortement concernés, donc réagissent en disant « nous sommes tous Charlie, nous sommes tous Américains ». D'autres le sont un peu moins. Et ça nous fait mal de nous rendre compte que d'autres le sont un peu moins. Et ce qui est crucial dans ces moments-là du coup, et c'est ressorti plusieurs fois dans l'émission, c'est d'arriver à maintenir des espaces de dialogue pour discuter des différents sens qu'on attribue à l'attaque.
Beaucoup de gens disent aujourd'hui on peut plus parler.
Exactement. Vous entendiez tout à l'heure Eugène qui disait que c'est très important, donc Eugène au Cameroun, qui disait que c'est très important de répondre aux attentats par le dialogue, le maintien du dialogue dans l'espace public. Et moi, dans les enquêtes que je fais en ce moment, j'entends beaucoup de Français qui me parlent du 13 novembre et qui disent depuis le 13 novembre, avec ce qui se passe actuellement, je peux en parler avec mes proches, mon entourage social direct, mais au travail, avec des collègues, des gens qui ne sont pas exactement du même milieu social que moi, etc., j'ai peur. J'ai peur de ce qu'ils en pensent, on n'ose pas parler.
Amy Green, est-ce que ça, c'est un sentiment qui est partagé aux États-Unis ou pas, ce malaise pour parler?
Ça dépend, en fait, oui et non. Je dirais surtout non parmi la génération des jeunes, parce que finalement, c'est une génération extrêmement diverse dans ses origines. C'est une génération qui est, en général, majoritairement constituée des groupes minoritaires. C'est une génération qui a, pour un grand nombre d'entre eux, des parents qui sont nés à l'étranger, des origines extrêmement variées, etc. Et donc, il y a une mixité, une tolérance sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Et donc, en fait, finalement, ce mélange de personnes, de profils, etc., au sein de cette même génération, avec les gens qui s'interagissent à l'école, etc., finalement, le dialogue se fait petit à petit. Donc, je peux dire qu'il y a peut-être une fracture plus entre deux générations, deux pro-générationnelles, mais pas forcément au sein de l'Amérique qui est en train d'émerger.
Merci en tout cas à tous les deux. Jérôme Truc, sociologue, vous publiez Sidération, une sociologie des attentats aux éditions Presse universitaire de France. Amy Green, vous êtes chercheuse en relations internationales à Sciences Po Paris, spécialiste des États-Unis. Vous publiez d'ailleurs très prochainement un ouvrage sur les États-Unis, CNRS et le monde.
Chez CNRS.
Oui. Voilà. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, un reportage aux États-Unis sur un tout autre sujet auprès des étudiants américains surendettés. C'est un sujet que vous connaissez, je pense. Amy Green, vous remboursez encore vos études ou pas?
Malheureusement, c'est un sujet que j'ai pu connaître, oui, tout à fait.
Mais vous avez fini de rembourser vos études?
Sans commentaire, mais en tout cas, c'est vrai que l'endettement aux États-Unis des étudiants, c'est quand même
1300 milliards de dollars de dette étudiants. Ça n'a pas empêché l'université de Stanford en Californie d'annoncer une augmentation des frais universitaires de 3% par an dans les 10 prochaines années. Jusqu'où irons-nous? Les candidats à la présidentielle ont-ils des solutions pour sortir de cette spirale infernale de l'endettement et du prix des universités? On en discute. Ne manquez pas l'émission demain avec le reportage de Cerise Maréchaux.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth.